J'imagine que ça ne vous aura pas échappé. Dimanche, Marie-Colline Leroy a été intronisée au poste de secrétaire d'État à l'égalité des genres, à l'égalité des chances et à la diversité, en lieu et place de Sarah Schlitz, démissionnaire. On en parle avec Frédéric Chardon, journaliste politique à la Libre Belgique, qui répondait aux questions de Blaise van der Linden.
Frédéric Chardon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste politique à la Libre. Remaniement au gouvernement. Marie-Colline Leroy a été nommée dimanche secrétaire d'État à l'égalité des genres, à l'égalité des chances et à la diversité en remplacement de Sarah Schlitz, démissionnaire. Alors, revenons, si vous le voulez bien, d'abord à la genèse de ce remplacement. Que s'est-il passé avec Sarah Schlitz?
Comme vous avez certainement vu dans les médias, Sarah Schlitz a commis quelques erreurs par rapport à la position de son logo personnel sur des documents qui n'auraient jamais dû le voir. Des associations qui avaient été subsidiées par l'ancienne secrétaire d'État avaient eu une recommandation, une invitation par le cabinet à apposer le logo personnel de Sarah Schlitz, ben c'est interdit en fait. On ne peut pas utiliser un ministre, une secrétaire d'État ne peut pas utiliser l'argent public, les subsides qu'elle octroie ou qu'il octroie pour se faire de la promotion, de publicité sur le dos des finances publiques bien entendu. Alors un député de l'NVA dans l'opposition, donc à la Chambre des représentants, Sander Lones, l'avait remarqué, l'avait dénoncé sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et Sarah Schlitz s'est accrochée à son poste, a essayé d'expliquer que c'était une erreur, elle a présenté ses excuses, mais sa défense était quand même assez faible, et l'accumulation d'articles tous les jours pendant 2 semaines a fini par la pousser à la démission. C'était devenu intenable pour elle parce que un parti comme Écolo qui met en avant la bonne gouvernance, c'est son ADN, ne pouvait pas tolérer de maintenir en place quelqu'un qui avait une position finalement assez ambiguë par rapport à ça.
Le scandale paraît quand même léger par rapport à d'autres scandales que l'on connaît. Est-ce que vous pensez que le fait qu'elle soit une femme a joué dans cette démission forcée?
C'est toujours difficile à évaluer, bien entendu. On sait que notre société est encore sexiste aujourd'hui. On sait que la politique est un univers particulièrement violent et qui reste encore sexiste. Maintenant, savoir est-ce que Sarah Schlitz a dû démissionner parce que c'est une femme, et si elle avait été un homme exactement dans les mêmes conditions, aurait-elle pu rester en place? C'est difficile de l'affirmer. D'ailleurs, il y a des points de vue qui sont tout à fait différents. On entend des points de vue tout à fait différents sur le sujet. Certaines personnes l'affirment, oui, en effet, notamment chez Écolo. Il y a peut-être une tentation à une certaine victimisation du côté d'Écolo, chez certaines personnes en tout cas. Mais je constate que d'autres féministes, pourtant, notamment Sophie Rowini, qui est députée des filles, mais qui est surtout la présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique, considère, c'était dans la Libre d'ailleurs ce week-end, elle considère que Sarah Schlitz n'a pas le droit de se victimiser, et elle n'a pas dû démissionner parce qu'elle est une femme, elle a dû démissionner parce que ce qui s'est passé dans son cabinet et le logo-gate, comme on dit, a été trop scandaleux que pour lui permettre de rester en place encore aujourd'hui de manière à susciter la confiance des citoyens.
Venons-en maintenant à sa remplaçante, Marie-Colline Leroy, profil assez similaire, non ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que chez Écolo, dès qu'on a appris la nouvelle de la démission de Sarah Schlitz, il y avait tout de suite plusieurs personnalités qui ont émergé comme étant des candidates ou remplacements tout à fait possibles. Parce que, bon, je dis candidate parce qu'il était très clair au sein du parti que c'était une femme qui allait la remplacer. Voilà, ici c'est Marie-Colline Leroy. Je n'ai pas encore les détails internes, les coulisses politiques de la décision au sein du parti, mais elle faisait tout à fait très clairement partie des 2 ou 3 candidates que l'on pouvait citer comme étant comme faisant partie des députés les plus méritantes et les plus pointues dans les matières égalité des chances, combat féministe. Voilà, Marie-Colline Leroy, c'est une députée fédérale, donc elle connaît déjà bien son niveau de pouvoir. Elle est présidente de commission, enfin elle était présidente de commission au sein de la Chambre, donc c'est quelqu'un qui a déjà des responsabilités, en tout cas du côté parlementaire. Et voilà, c'est quelqu'un qui connaissait déjà, qui a un intérêt personnel pour les matières, je dirais, que l'on pourrait regrouper sous l'appellation égalité des chances, c'est-à-dire le, le cœur de cible dans ce, du secrétariat fédéral qu'elle, dont elle prend la tête maintenant en rejoignant le gouvernement de Croo.
Vous parlez de son passé parlementaire au sein du parti écolo, elle est une personne importante aussi ?
Ouais, je dirais pas que c'est une personne importante, elle est importante comme n'importe quel député. Vous savez, chez Écolos, c'est un peu moins flagrant que dans les autres partis. On joue moins la carte de la baronnie, des personnalités fortes qui auraient un poids très, très important au sein du parti. C'est vrai que chez Écolos, bon, le parti a des défauts, des qualités, mais parmi ces qualités, en tout cas, on peut voir un certain sens du collectif. Alors, le désavantage, enfin, ça a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi un désavantage, c'est que les personnalités sont moins connues. C'est vrai que je suis certain que beaucoup de gens ne connaissaient pas la députée Marie-Coline Leroy, ça j'en suis persuadé. C'est moins vrai dans les autres partis qui mettent plus en avant leur personnalité. Alors, je ne peux pas dire qu'elle avait un poids très important, de par aussi les, bon, voilà, les mécanismes internes du parti. Le parti est dirigé par une coprésidence, Jean-Marc Nollet, Raja Mawan. Et puis, les décisions principales du parti sont prises autour des espèces de parlements internes du parti, en l'occurrence le conseil de fédération ici, pour le remplacement de Sarah Schwitz. Donc, le poids relatif des personnalités politiques au sein des colons est plus faible que dans d'autres partis politiques où on est plus dans les rapports individuels, les rapports de force inter-individuels. Donc, je n'oserais pas dire que c'est quelqu'un qui pesait très lourd au sein du parti, non.
Aujourd'hui, ce ministère, il est très important. Un tel remaniement fragilise-t-il l'image du gouvernement de Croo ?
Je ne sais pas si le secrétariat d'État est très important. D'abord, c'est un secrétariat d'État, donc ce n'est pas un ministère en tant que tel. Un secrétaire d'État, sur le plan constitutionnel, ce n'est qu'un adjoint d'un ministre, en quelque sorte. C'est un sous-ministre, si j'ose dire. Alors, les matières égalité des chances sont très, très, très importantes d'un point de vue sociétal, mais on ne peut pas dire, sur le plan vraiment de la science politique, on ne peut pas dire que la future secrétaire d'État a vraiment des leviers en main pour marquer durablement l'avenir d'une société dans ces domaines-là. Il ne faut certainement pas exagérer, ni surinterpréter, surévaluer le pouvoir politique. Par contre, il y a plusieurs dossiers très importants qu'elle va devoir, ça c'est vrai, achever d'ici la fin de la législature. Bon, il lui reste un an, ça ira très très vite. Notamment un plan, si je ne m'abuse, un plan de lutte contre le racisme. C'est vraiment un des éléments les plus importants et un plan de lutte contre les féminicides. C'est les deux, bon, c'est vraiment des sujets d'actualité, ça c'est vrai, c'est très important. Maintenant, ce sont des plans de lutte, donc je crois qu'il faut relativiser aussi l'impact concret que pourront avoir ces dossiers à court terme sur l'évolution de nos sociétés. Donc, il ne faut peut-être pas dramatiser les enjeux autour de ce changement de personnalité à la tête du secrétariat à l'égalité des chances.
Jusqu'ici, le parti écolo jouissait d'une image assez, comment dire, assez propre. Est-ce que ce scandale va entacher le parti d'ici 2024 et les élections ? Est-ce que c'est un risque pour eux ?
Oui, très certainement. Donc, moi, j'évalue ça comme étant comme augmentant les chances d'Écolo de se casser la figure aux prochaines élections, si vous me passez l'expression. On sait que déjà en temps normal, les écolos, après chaque participation au pouvoir, c'est systématique, ils ont perdu, et je dirais dans les grandes largeurs, ils ont perdu les élections qui ont suivi. Ici, les voilà au pouvoir, à tous les niveaux de pouvoir, d'ailleurs pas qu'au fédéral. Donc déjà, il y avait un risque. Mais ici, on voit que leurs adversaires, grâce à l'affaire Sarah Schwitz, pouvoir les attaquer durant la prochaine campagne électorale en disant « Mais voilà, vous vous présentiez, vous, les écolos, comme étant le parti de la bonne gouvernance, le parti de l'éthique en politique, vous donniez des leçons aux autres, mais regardez, Sarah Schmitt, elle a imposé son logo, elle a organisé de manière plus ou moins consciente sa publicité au moins grâce à l'argent public, c'était illégal. » Et donc, forcément, ça va priver les écologistes d'un argument de campagne. Ils ne pourront plus se présenter comme étant comme l'avant plus blanc que les autres. Et j'imagine déjà les attaques de leurs adversaires, bien entendu, ils ne vont pas les rater, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça va affaiblir les Verts. Alors, je parlais tout à l'heure du contexte post-occupation du pouvoir, qui est toujours délicat pour les écolos. Il y a le problème de l'absence de possibilité d'utiliser l'argument de la bonne gouvernance désormais suite à l'affaire Sarah Schmitt. Mais en plus, il y a d'autres éléments qui font que l'ADN même d'écolos ces derniers mois a vraiment été remis en cause. Parce qu'il y a dans le cœur de la réflexion qui ont conduit à la création du Parti écolo dans les années 80, il y a le pacifisme et il y a la lutte contre le nucléaire. Hein, eh bien, ces deux grands pans de la réflexion des écologistes sont tombés également ces derniers mois. À cause de quoi ? À cause de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a provoqué, a obligé les pays occidentaux, dont la Belgique, à se réarmer et à livrer des armes létales à l'Ukraine, ce qui n'était pas du tout l'ambition à la base des écolos lorsqu'ils sont montés dans le gouvernement de Kroll. Et par ailleurs, toujours à cause de la crise énergétique qui a suivi cette guerre en Ukraine, c'est les écolos, en tout cas les écolos flamands, qui ont dû faire tout ce qu'ils pouvaient pour maintenir au moins deux réacteurs nucléaires, les prolonger au-delà de la limite dans le temps 2025 qui était fixée initialement. Donc les voilà, c'est la famille écologiste qui a dû prolonger le nucléaire en Belgique, si je peux réduire les choses de cette manière-là. Et donc, quel va être le bilan des écolos en 2024? Il va être vraiment très ténu. Et il y a de quoi déboussoler beaucoup de militants de base du parti. Donc, moi, en tout cas, à ce stade, bon, un an, c'est très long, hein, il peut se passer encore beaucoup de choses, mais à ce stade, les écologistes abordent vraiment cette année préélectorale dans des très, 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 très mauvaises conditions.
Frédéric Chardon, je rappelle que vous êtes journaliste politique à La Libre. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Je vous en prie, avec plaisir.